Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revenons donc au roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Ils revinrent sur leurs pas pour prendre la route en lacet qui grimpait vers le point de vue. Celle-ci était bordée d'arbres et de jolies maisons construites récemment par des gens qui bossaient au Luxembourg. À mesure qu'on progressait vers le sommet, la végétation gagnait en densité et l'ombre aussi. Steph et Anthony marchaient côte à côte, se cherchant du coude. Peu à peu, la fatigue du dénivelé montait dans leurs jambes. Ils allaient en silence. Anthony était content. Il avait souhaité cela tellement fort. Bientôt, ils purent entrevoir la silhouette de la Vierge qui se dressait là-haut. C'est la famille Wendel qui avait payé pour ce monstre de piété qui, du haut de ses 10 mètres, veillait sur le sommeil des ouvriers. Des décennies plus tard, la tête inclinée et les bras ouverts, elle continuait à bénir Hayange. Quand on se trouvait à ses pieds, c'était tout de même très impressionnant. Il y a un obus qu'il l'a touché pendant la guerre, fit Anthony.
Ben, je sais bien, répondit Steph. C'était leur histoire à tous.
Steph lui demanda de patienter 2 secondes et disparut derrière le socle. Levant les yeux, le garçon trouva les traits bienveillants de la statue, le lourd drapé de sa robe, l'aspect lisse du métal où la rouille commençait un lent travail de sape. Quand la jeune fille reparut, elle tenait une bouteille de vodka.
« C'est quoi ?»«
Ah, on est venu picoler ici l'autre jour. On avait laissé une bouteille.
Cool !»
Elle dévissa le bouchon qui émit un craquement neuf et porta la bouteille à ses lèvres.
« Ah, elle est chaude !» dit la jeune fille en grimaçant. « Fais voir !»
Anthony but à son tour. C'était vraiment infect.
« C'est ignoble, hein ? Grave ! Repasse voir la bouteille !»
Steph s'envoya encore une bonne rasade avant de se rendre vers la table d'orientation qui s'arrondissait face au vide. Elle grimpa dessus pour s'asseoir et regarda le paysage, les jambes ballantes. Anthony la rejoignit d'un bond. Elle lui tendait déjà la bouteille.
« Bah, ça fait quand même du bien, hein ? Ah ouais ! »
Au loin, on voyait couler la haine, tortueuse et scintillante. Il se faisait tard, décidément, dans la vallée. Sur le visage d'Anthony, des lueurs rasantes soulignaient des imperfections. Un peu de duvet sur la lèvre, un bouton à l'aile du nez. À son cou, une veine palpitait. Il se tourna vers Steph. Tous deux ne représentaient rien dans cet espace qui n'était déjà pas grand-chose. Un affluent passait à travers une vallée où des hommes avaient construit 6 villes et des villages, des usines et des maisons et des familles et des habitudes. Dans cette vallée, des champs géométriques de blé ou jaune colza découpaient des patchworks méticuleux sur un relief d'onde. Des reliquats de forêt couraient entre les parcelles, joignaient des hameaux, bordaient des routes grises où passaient 10 000 poids lourds par an. Parfois, sur le vert mordant d'un vallon, un chêne poussait tout seul, semblable à une tache d'encre soufflée. Dans cette vallée, des hommes étaient devenus riches et avaient construit de hautes maisons qui, dans chaque bled, narguaient l'actualité. Des enfants avaient été dévorés par des loups, des guerres, des fabriques. À présent, Anthony et Steph étaient là, constatant les dégâts. Sous leur peau courait un frisson intact. De même que dans la ville éteinte se poursuivait une histoire souterraine qui finirait par exiger des camps, des choix, des mouvements et des batailles. « Tu voudrais pas sortir avec moi ?» Steph faillit éclater de rire. Mais la gravité du garçon l'en dissuada. Il fixait le paysage sensillé, têtu et beau. La vodka avait fait son petit effet, et Steph ne le trouvait plus si petit au fond. Et puis l'habitude modifiait ce visage, qu'elle voyait maintenant de profil, sans cette inexactitude de la face. Elle oubliait de se méfier. Se sentant observée, le garçon se tourna vers elle, l'œil à demi-clos reparut. Elle sourit, embarrassée. « Pourquoi tu me demandes ça ? » dit-elle. « Je sais pas, t'es belle. » La lumière peu à peu faiblissait, il ne fallait pas rentrer surtout. Anthony se dit qu'il allait prendre sa main. Le devinant, elle s'éloigna un peu. « T'habites où ?» Il lui montra. « Et toi ? Là-bas. » Elle fixait la juxtaposition touffue des toitures, l'entrelac des vies dans le creux, sous le pont. Elle était venue là 100 fois et connaissait ce panorama sur le bout des doigts. Elle y trouvait tout de suite des repères. Elle mesurait comme tout ça était insuffisant. « Je vais me casser. Dès que j'ai le bac, je me tire d'ici. Tu veux aller où ? À Paris. Ah bon ?» Pour Anthony, Paris était un truc abstrait et creux. Paris, c'était quoi ? 7 sur 7, la tour Eiffel, les films de Belmondo, un genre de parc d'attractions en plus prétentieux. Il ne comprenait pas très bien ce qu'elle irait foutre là-bas. « J'irai, je m'en fous. » Pour Steph, en revanche, Paris était noir et blanc. Elle aimait Doisneau. Elle y allait à Noël avec ses parents. Elle se souvenait des vitrines et de l'opéra. Elle serait parisienne un jour. Ils burent encore et puis elle annonça qu'elle devait rentrer. « Déjà ? Il est presque 8 heures. Ma mère va me défoncer. Tu veux que je te raccompagne ?» Elle prit un peu d'élan et jeta la bouteille très loin vers la ville. L'objet décrivit une longue courbe d'une beauté balistique. Ils la suivirent tous deux des yeux avant qu'elle ne disparaisse à quelques dizaines de mètres en contrebas, dans un froissement de feuillage. « Non, dit Steph, ça va aller. » Après son départ, Anthony regarda le soleil tomber. Il ne pleura pas. Mais c'est pas l'envie qui lui manquait. Hélène Cassati avait pris un jour exprès, comme elle le faisait de temps en temps. Dans ces cas-là, elle faisait comme d'habitude, lever la première à 6 heures et puis le petit-déj en écoutant Europe 1. Elle aimait bien les chroniques de Philippe Aubert. Il était marrant et savait parler des femmes, surtout de Mathilde Amet. À la maison, une routine très précise régulait les occupations du matin, décidant de l'usage de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes. L'objectif était d'éviter les face-à-face, parce que personne ne se levait du bon pied chez les Cassati. Pourtant, les repas sont des moments privilégiés dans une vie de famille. C'est ce que disait Madame Dumas, l'assistante sociale qu'on leur avait assignée après l'accident. Hélène se souvenait de cette grosse femme énergique qui parlait sans desserrer les dents. Quand elle s'asseyait dans leur cuisine, ses cuisses prenaient des proportions vraiment affolantes. Elle prodiguait alors ses conseils et se faisait montrer les comptes. Hélène détestait l'avoir fourré son nez dans leurs affaires. « Ben, je fais de la compta, hein, vous savez. »«
Je sais bien, » répondait Madame Dumas, « mais on doit pouvoir améliorer ça. »
Madame Dumas souriait, appliquée, toujours égale, dépiautant des souches de carnet de chèques en portant régulièrement son index à sa bouche. Elle était vraiment à son affaire. Le juge l'avait mis là pour le bien de l'enfant. Jusqu'à un certain point, Hélène pouvait comprendre cette mesure. Même Patrick faisait des efforts. Les événements s'étaient enchaînés tellement vite. «
Vous êtes conscient que vous avez besoin d'aide ?»
Le couple répondait oui. Dans le bureau du juge, Anthony avait ses habitudes dans le petit coin des jouets. Une fois, il s'était plaint de ne pas retrouver le schtroumpf à lunettes. Un autre gamin avait dû l'emporter.
Évidemment qu'ils avaient besoin d'aide.
En attendant, cette Madame Dumas vous rendait cinglée avec son sourire infatigable et cette bienveillance qui n'en finissait pas. Hélène pensait ne plus avoir la moindre indulgence de réserve pour son mari, mais le comportement de l'assistante sociale les avait presque réconciliés. La grosse femme n'avait de cesse de détailler ses habitudes, le nombre de canettes, les clopes chaque jour, ses copains, les fusils, la moto, les mots qu'il employait devant le gosse, même sa manière de bouger. Elle rectifiait chaque manie pour faire fonctionner cette famille comme il faut.
« on progresse !» répétait Madame Duras, son leitmotiv juste avant de blâmer et prescrire.
Le père et la mère pliaient, bien obligé.
Vous parlez de quoi pendant les repas?
Vous demandez à votre femme comment s'est passée sa journée.
Les joues de Patrick s'enflaient.
Bah, qu'est-ce qu'il pouvait répondre à ça?
Vous pouvez aller au musée, c'est gratuit pour les chômeurs.
Quoi qu'il en soit, les Casati avaient dû expérimenter ces petits déjeuners partagés, limite civiques et à l'américaine, avec céréales et fruits frais. Hélène se souvenait encore du bruit que faisait Patrick en aspirant son café. Elle revoyait le môme remuant son muesli. Il n'aurait pas été plus dégoûté si on lui avait donné de la boue. À la fin, elle lui avait dit d'aller boire son Nesquik devant la télé. Elle et Patrick s'étaient retrouvés seuls, incapable de dire un mot, humilié. Quand cette période de surveillance administrative avait pris fin, Madame Dumas avait rendu un rapport qui n'était pas très favorable, mais le juge des enfants gérait près de 150 dossiers par an et des cas autrement plus dramatiques. On leur avait donc foutu la paix. Au fond, ce qui chagrinait Hélène, c'était de voir que cette histoire de mauvaise chute inventée de toutes pièces, était devenue la vérité pour tout le monde. Même Anthony soutenait cette version quand on lui demandait. Mais Hélène avait la mémoire dure.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Excitation.
Good vibrations. She's giving me
somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom
she's by my
excitation.
Good, good,
good,
good vibration.
She's by my
excitation.
Good, good,
good,
good vibration.
She's by my
vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations.
Denis Flageol.
Et nous revoici ensemble pour la suite de nos lectures avec les personnages du roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Hélène avait bien failli l'annuler, sa fameuse journée en célibataire. Déjà, parce qu'il y avait eu un orage la veille, et que ça ne servait à rien de poser des jours en cachette, si c'était pour finir enfermé dans une salle de ciné. Et puis cette histoire de moto la rendait à moitié folle. Depuis une semaine qu'elle avait disparu, elle y pensait le jour et la nuit, sursautant à chaque fois que Patrick ouvrait une porte. Cette bécane ne valait pourtant rien et ne servait plus. Il n'avait même pas les moyens de l'assurer. Mais elle savait qu'au moment où Patrick découvrirait le poteau rose, il perdrait complètement les pédales. Quand on pensait qu'il avait voulu aller chez le voisin avec une manivelle parce qu'il tardait à leur rendre la machine à raclette. Mais elle avait besoin d'un peu d'air. Et de cette journée. Elle était donc partie la première alors que Patrick était sous la douche et qu'Anthony dormait encore. Au volant de sa vieille Opel cadette, elle avait pris la direction de Guéret-Manche. C'était un peu comme faire le mur et elle était tout excitée. Elle filait maintenant sur la départementale. Dans le pare-brise, de minces nuées rehaussaient le bleu du ciel. Là, un avion en partance traçait sa ligne aussitôt dissoute. Elle baissait la vitre pour respirer la bonne odeur du pétrichor, une odeur mouillée et noire et qui rappelait la rentrée des classes, une odeur de lendemain et de nostalgie. Il allait faire très beau aujourd'hui, il l'avait dit à la radio. Elle fit un premier arrêt au carrefour pour s'acheter de quoi manger, du pain, une tomate, une bouteille d'eau minérale et femme actuelle. Puis elle reprit la route. En arrivant sur le parking de la piscine, elle regarda sa montre. Il n'était même pas 10 heures. Elle avait toute la journée devant elle. Elle se sentait loin, libre. C'était parfait. Elle régla son ticket à la caisse. La femme qui se trouvait là était une ancienne copine d'école. Elles s'étaient reconnues et échangèrent un sourire entendu. Ça suffisait. Puis Hélène alla s'enfermer dans une cabine. Là, elle enfila son maillot de pièces. Elle l'avait acheté 2 ans plus tôt, mais ça allait, il restait bien dans l'air du temps, échancré sur les cuisses jaunes et qui remontaient assez haut sur le ventre. Il valait mieux être un peu bronzé pour porter un truc pareil. Hélène l'était tout l'été. Pour finir, elle se fit un chignon, noua un pareo autour de ses reins, prit son sac et hop, elle fila vers le bassin en plein air, ses lunettes de soleil en guise de serre-tête. Ses pieds touchaient à peine le sol. Même, elle fredonnait. La piscine de Guérémange était un modèle du genre creusé dans les 70s. Longue de 50 mètres avec des plots en béton et des dalles de gravillon, des catis et modernes, 2 mètres de profondeur tout au bout. Tôt le matin, il n'y avait pas grand monde, à part les acharnés qui faisaient des longueurs avant l'heure d'affluence. Hélène se choisit une chaise longue d'où elle pouvait voir venir les baigneurs qui sortaient des vestiaires. Au passage, elle adressa un petit signe à un couple de sexagénaires indéboulonnables. La femme tricotait tandis que l'homme lisait un journal déplié à ses pieds. Ils passaient là le plus clair de leurs étés, huilés des pieds à la tête, caramélisés et grisonnants. Après l'heure du déjeuner, ils s'autorisaient une petite sieste en plein cagnard et on apercevait alors leur voûte plantaire qui donnait une idée assez exacte de leur couleur d'origine. Ces deux-là venaient d'un monde presque achevé, où les bains de soleil se concevaient comme thérapeutiques. Ils ne buvaient pas, ne fumaient pas, se couchaient tôt, et chaque jour, ils flambaient en plein soleil. Hélène dénoua son pareo, étendit sa serviette et s'allongea. Un soupir d'aise se fraya un chemin entre ses lèvres. Elle essaya de ne plus penser à rien. Son long corps s'étalait sous ses yeux, apparemment lisse. Elle le considéra sans indulgence, inspectant ses fesses, ses cuisses, faisant émerger un peu de peau d'orange du plat de la main. Mais quand elle relâchait, la surface reprenait son aspect irréprochable. Sa peau, peu à peu, était devenue une étendue complexe, une mémoire. Au jour le jour, les changements étaient indécelables. Et puis un matin, elle constatait une variation, un aspect fripé. Une vénule grenat apparaissait sans prévenir. Son corps, en secret, semblait mener une vie bien à lui, une insurrection lente. Comme beaucoup de femmes de son âge, Hélène s'astreignait à des régimes saisonniers, un pacte étrange s'établissait entre elle et son corps, les privations devenant une monnaie légale dans cette économie du retour en arrière. Il suffisait d'échanger de la souffrance contre de la vitalité, du vide contre du lisse, de la continence contre de la plénitude. Pour tout dire, ça marchait moyennement. Elle toucha son ventre, tapota l'intérieur de son nombril avec son index, ce qui produisit un petit bruit mat et rond. Elle sourit et se leva. Le temps passait. Et alors ? Son cul rentrait toujours dans ce 501 troué qu'elle avait retrouvé au fond de son armoire. Les mecs continuaient à se retourner sur son passage. Dans le bassin, les mouvements des nageurs provoquaient un lointain froufrou d'écume, un remous scintillant et bleu. En arrivant au bout, les plus aguerris exécutaient une culbute brutale, rejaillissant ensuite sous l'eau, tendue et floue. Hélène pouvait sentir le lent nappage du soleil sur ses pommettes et son nez, la douleur sur ses cuisses. Elle avait chaud. Elle était bien. Elle se leva pour rejoindre le bord, les pieds en équilibre sur la margelle. Elle tendit les bras par-dessus sa tête. En théorie, le bonnet était obligatoire. Elle plonge. Dans l'eau fraîche, Hélène nage le crawl, des gestes appris il y a 30 ans à l'école municipale. En retrouvant leurs répétitions idiotes, elles renouent avec un bien-être sans question. Très vite, un peu de chaleur monte de ses articulations, de ses épaules. L'effort produit son territoire abrité où elle se love avec bonheur. Elle sent son ventre se creuser, ses épaules qui tirent. Chaque bouffée d'air qu'elle prend à la surface est un baiser. Après une longueur, elle s'arrime au mur pour reprendre son souffle. Le million de reflets hésitants à la surface lui pique le visage. Elle bat des paupières pour chasser les gouttes qui perlent de ses cils. Sous la brise, sa peau se hérisse. C'est un plaisir miraculeux. Tout ce qui signale l'existence de son corps la remplit de joie. Car chaque jour, tout conspire contre ce corps. Son mari qui ne la baisse plus. Ce fils pour lequel elle se ronge les sangs. Le travail qui l'affadit à force d'immobilité, de tâches dénuées de sens, de mesquinerie toujours reconduite, et le temps, évidemment, qui ne sait rien faire d'autre. Alors elle résiste. Quand elle avait 17 ans, c'était déjà la même histoire. Avec sa frangine, elle aimait bien danser. Elle se tapait des mecs, séchait les cours. Elle s'achetait des soutifs pointus. Elles écoutaient H tendre à la radio. Dans le quartier déjà, on disait « les salopes » parce qu'elles refusaient la règle du compte-gouttes, celle qui fixe les étapes, la bonne mesure. Hélène avait le plus beau cul des Yanges. C'est un pouvoir qui vous échoit par hasard et ne se refuse pas. Les garçons ont alors des yeux de veau. Ils deviennent sots, prodigues. Vous pouvez les choisir, les échelonner, aller de l'un à l'autre. Vous régnez sur leurs désirs imbéciles. Et dans cette France de la déesse et de Sylvie Vartan, où les filles étaient cantonnées aux fiches cuisine et au rôle de midinette, c'était presque déjà la révolution. Le plus beau cul des Yanges. C'est ce que lui dit Gérard un soir qu'il la raccompagne chez elle. C'est un costaud avec une canadienne en cuir. Il la porte comme un rien et elle adore cette légèreté des bras de Gérard. Il a 20 ans et bosse dans un atelier de ferronnerie. Le samedi, il vient la prendre avec sa bébé sport. Il la sort et ils font l'amour dans les coins, debout derrière la buvette dans la campagne le dimanche après-midi où ça peut. Gérard est ambitieux. Après son service militaire, il compte partir. À chaque fois qu'il se reboutonne dans un champ de colza, il lui détaille son plan de carrière. Il ira faire des chantiers à l'étranger, ils auront des mômes, des vacances à la mer, ils feront construire une maison avec 3 chambres. Quand il est en verve, il énumère même les outils accrochés dans son atelier hypothétique qui jouxtera le garage, celui aux 2 voitures. L'hiver, il y aura un feu de cheminée. Avec un peu de chance, ils iront même au ski. Ça dépendra. Allongée sur le dos, les yeux perdus dans le bleu, Hélène écoute. Entre ses cuisses, elle sent quelque chose de chaud qui coule. Elle espère que ce n'est pas ce qu'elle croit. Elle lui demande. Il a pris ses précautions, pas de problème. Est-ce que ce serait si grave après tout ? Non. Une famille, 2 bagnoles, vivre là, ce serait bien. Hélène est repartie pour 50 mètres. Ses jambes déjà lui font mal, elle manque de souffle et se sent vieille. Mais après cet engourdissement déprimant des 10 premières longueurs, elle sait qu'un second souffle viendra qui chassera ses idées noires. Il faut surmonter le froid et l'asphyxie et cette lassitude qui est comme une boue. Il faut tenir, persévérer dans l'absurde répétition des longueurs. Les pensées lui passent à travers la tête et des souvenirs le vaguent à l'âme. La natation est un sport d'endurance, donc d'ennui. Elle fixe le fond du vieux bassin auquel il manque de petits carreaux de faïence. Le soleil frappe l'eau selon un angle aigu qui produit des éclairs, des ombres, des éblouissements. Chaque traversée recèle ses étapes. Hélène nage. Et voilà la fin de cette lecture pour aujourd'hui. Nous retrouverons donc le roman de Nicolas Mathieu demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.